Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 octobre 2021. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, décide de bouder le procès de l'assassinat de Thomas Sankara qui sauve lundi. Ses avocats récusent ce qu'ils considèrent comme une juridiction d'exception et disent que leur client n'a jamais été convoqué. L'Algérie appelle à un retrait marocain de la zone tampon de Guerguerat au Sahara occidental. La démilitarisation de cette zone est la pierre angulaire de tout processus politique crédible visant à trouver une solution pacifique au conflit, affirme le porte-parole de la diplomatie algérienne. Le Nobel de littérature au romancier tanzanien Abdul Razak Gourna, il est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003. Et le cinquième du continent au total. Ici aux États-Unis, un juge bloque temporairement la loi sur l'avortement du Texas, une loi qui interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré n'assistera pas à l'ouverture lundi à Ouagadougou du procès dont il est le principal accusé dans l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé et icône panafricaine. C'est ce qu'annoncent ses avocats qui ne s'y rendront pas non plus. Nani Talani nous en dit plus.
Les avocats français et burkinabés de Blaise Compaoré affirment que leur client n'a jamais été convoqué pour un interrogatoire et qu'aucun acte ne lui a jamais été notifié, sinon sa convocation finale devant la juridiction de jugement. Ils estiment en outre que Blaise Compaoré bénéficie de l'immunité en tant qu'ancien chef de l'État. Mais ils assurent que si Blaise Compaoré ne reconnaît pas la justice du président Roch Kabore, il demeure confiant en la justice internationale. L'ouverture lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 34 ans après sa mort, suscite des espoirs de vérité et de justice. 14 des principaux accusés seront jugés, dont Blaise Compaoré, 70 ans, et le général Gilbert Diendéré, 61 ans, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Tous deux sont accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Le général Diendéré purge déjà au Burkina une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire, où il a obtenu la nationalité ivoirienne après avoir été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en 2014 qui avait ainsi mis fin à ses 27 ans de règne.
Une attaque djihadiste présumée dans le centre du Mali mercredi a fait 16 morts et 9 blessés. Parmi les militaires maliens, a annoncé ce jeudi l'armée dans un communiqué révisant à la hausse son précédent bilan de 9 morts. Ce bilan avait été confirmé par une source au centre de santé communautaire de Bandiagara, soulignant que les 16 corps se trouvaient à la morgue de cette localité. Une trentaine de ressortissants burundais ont été arrêtés dans l'est de la République démocratique du Congo, tout près de la frontière avec le Burundi, dans une région où sévissent des groupes armés. Interpellés dans la nuit de mardi à mercredi, dans le village de Rusabagi, dans le territoire d'Uvira, ces personnes sont actuellement interrogées par les services de renseignement militaire, précise le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu. Il pourrait s'agir de rebelles Red Tabara, mouvement aujourd'hui considéré comme le plus actif des groupes rebelles burundais, qui a sa base arrière au Sud Kivu, estime le porte-parole de l'armée congolaise. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a nommé ce jeudi le nouveau gouvernement, dirigé par l'homme d'affaires Aziz Akanouche, patron du Rassemblement national des indépendants, RNI, le parti libéral grand vainqueur des récentes élections législatives, selon l'agence officielle MAP. Dans cette équipe constituée largement de technocrates, les titulaires des ministères régaliens sont reconduits. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita est maintenu dans ses fonctions dans un contexte de tensions régionales, notamment avec l'Algérie. L'Algérie, principal soutien des indépendantistes du Polisario, appelle au retrait des forces marocaines d'une zone tampon au Sahara occidental. Alger estime que cela facilitera la quête d'un règlement du conflit dans ce territoire après la nomination d'un nouvel émissaire de l'ONU. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamara, a fait savoir que son pays a noté avec intérêt la nomination du diplomate Staffan de Mistura comme nouvel émissaire pour le conflit au Sahara occidental. Un poste resté vacant depuis mai 2019 après que le Maroc et le Front Polisario ont rejeté une douzaine de candidatures. L'Algérie exige le retrait des troupes marocaines déployées fin 2020 dans la zone tampon de Guerguera. La question du Sahara occidental oppose depuis des décennies le Maroc au Front Polisario. En l'absence d'un règlement définitif, l'ex-colonie espagnole est considérée comme un territoire non autonome par l'ONU. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire désertique aux riches sous-sols et bordant des eaux poissonneuses, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, lui, réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU.
Le Nobel de littérature a sacré le romancier Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar, mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle, pour ses récits sur l'époque coloniale et postcoloniale en Afrique de l'Est et le destin difficile des réfugiés coincés entre deux mondes. Le point avec Rosine Mounezero.
Né en 1948, Abdulrazak Gurnah est un ancien réfugié qui a fui Zanzibar dans les années 1960 pour le Royaume-Uni où il a commencé à écrire, inspiré par ses souvenirs et son expérience d'immigré. Le romancier Gurnah est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003 et le cinquième du continent au total. Connu notamment pour ses romans Paradise 1994 et By the Sea près de la mer 2001, le Nobel Gurnah a été récompensé pour son récit empathique et son compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents, selon l'Académie suédoise qui décerne le prix. Il écrit en anglais même si sa langue d'origine était le swahili. Sur les 117 précédents lauréats en littérature depuis la création des prix en 1901, 95, soit plus de 80% sont des Européens ou des Nord-Américains. Avec le prix 2021, ils sont 102 hommes au palmarès pour 16 femmes. L'an passé, la poétesse américaine peu connue Louise Gluck avait été sacrée par la plus célèbre des récompenses littéraires pour son œuvre « À la beauté austère ».
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, annonce un accord au Congrès visant à suspendre le plafonnement de la dette jusqu'à début décembre. Après de longues heures de négociations, il a dit espérer qu'un vote sur cette proposition se tiendrait dès aujourd'hui. La Chambre des représentants devra ensuite à son tour approuver cette mesure pour que Joe Biden puisse la promulguer. Ce vote final n'est pas attendu avant la semaine prochaine. Les Républicains ont offert mercredi une solution temporaire aux démocrates pour sortir de l'impasse parlementaire et éviter un défaut de paiement des États-Unis, tandis que Wall Street et Joe Biden mettaient en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques d'un tel événement. Un juge fédéral du Texas a bloqué temporairement mercredi une loi controversée interdisant la majorité des avortements dans cet État. C'était dans le cadre d'une plainte déposée par le gouvernement Biden, qui a aussitôt salué une victoire pour les Texans. Les précisions de John Lydon.
Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus, a écrit le juge Robert Pittman dans sa décision dont l'État du Texas peut faire appel. Le Texas ne peut temporairement plus appliquer cette loi soutenue par les Républicains selon la décision. Le ministre américain de la Justice a salué une victoire pour les femmes et pour l'État de droit. La Maison-Blanche parle d'un pas important vers la restauration des droits constitutionnels des femmes dans l'État du Texas. Sa porte-parole, Jen Psaki, a souligné que le président Joe Biden était en faveur d'une transposition dans la loi de la jurisprudence de la Cour suprême qui garantit le droit des femmes à avorter tant que le fœtus n'est pas viable, soit 22 semaines de grossesse. La loi texane, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ 6 semaines de grossesse. Elle ne prévoit pas d'exception en cas d'inceste ou de viol, mais seulement en cas d'urgence médicale.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a annoncé aujourd'hui sa décision de nommer un rapporteur spécial sur l'Afghanistan, chargé d'enquêter sur les violations commises par les talibans et les autres parties au conflit dans le pays. La résolution créant ce mandat de rapporteur d'une durée d'un an a été déposée avec le soutien des États-Unis et du diplomate afghan que l'ancien gouvernement avait nommé et a finalement été adoptée par 28 pays, malgré l'opposition de 5 autres, la Chine, la Russie, le Venezuela, le Pakistan et l'Érythrée. 14 pays se sont abstenus. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Mounizero.
Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, l'organisation patronale la plus importante du pays, compte mettre en place un projet de création en son sein d'un observatoire de la concurrence. Cet observatoire aura pour but de contribuer à la réduction des distorsions de concurrence pour améliorer la compétitivité des entreprises et l'attractivité de l'espace économique national. Au Kenya, Family Bank, par l'intermédiaire de la Family Group Foundation, a décidé d'investir 5 millions de shillings, soit 45 000 $ pour fournir des compétences en technologie de l'information et de la communication à 100 jeunes à travers le pays. Le but est de transformer les talents en compétences employables et de fournir des opportunités de création de richesses. Des initiatives similaires se multiplient sur le continent dans le but de tenir la cadence de la quatrième révolution industrielle. La Banque africaine de développement a annoncé jeudi l'exclusion pour une durée de 36 mois de la société Express Automation Limited pour pratiques frauduleuses lors d'un appel d'offres pour la mise à niveau de la sécurité technique du centre régional de la Banque pour l'Afrique de l'Est au Kenya. Durant la période d'exclusion, la société et ses filiales seront inéligibles à participer à des projets financés par le groupe de la Banque africaine de développement.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022 Zone Afrique se poursuivent ce jeudi. La République démocratique du Congo a disposé de Madagascar 2-0, 1-0 pour le Bénin devant la Tanzanie. Le Cap-Vert a battu le Libéria 2-1. À suivre toujours ce soir, entre autres, Mali-Kenya et Tunisie-Mauritanie. Hier, le Soudan a tenu la Guinée en échec 1-1, tandis que le Maroc a disposé de la Guinée-Bissau 5-0. Un match qui a failli ne pas avoir lieu. Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé, a expliqué que ses joueurs et membres de l'encadrement ont développé des douleurs d'estomac environ 15 minutes après le dîner, suivi de diarrhée et de vomissements. Le chef de la délégation de la Guinée-Bissau, Carlos Texera, a un temps menacé de boycotter le match. Après cette victoire, le Maroc est en tête du groupe I avec 6 points devant la Guinée-Bissau qui compte 4 points. Demain, l'Algérie recevra le Niger sans Indi Dello. Le sélectionneur de l'équipe algérienne Djamel Belmadi a expliqué avoir blâmé Indi Dello et son club de Nice alors que l'attaquant a choisi de renoncer à la CAN pour privilégier son club. D'après Belmadi, Indi Dello l'a prévenu de sa défection en vue de la prochaine CAN en lui expliquant qu'il a préféré privilégier son club aux dépens de l'équipe nationale. L'absence de l'attaquant niçois dans la liste communiquée par Djamel Belmadi le 2 octobre en vue des deux matchs qualificatifs contre le Niger avait surpris alors que Indi Dello a inscrit 4 buts depuis son arrivée à Nice cet été. En Europe, après 3 ans sans défaite, l'Italie a été ramenée sur terre hier à Milan par une audacieuse Espagne vainqueur 1-2. La Roura jouera la finale de la Ligue des Nations contre la France ou la Belgique qui s'affrontent ce soir. Un doublé de Ferran Torres et l'exclusion du capitaine Leonardo Bonucci à la 42e ont assommé l'Italie avant la pause. Le but tardif de Lorenzo Pellegrini à la 83e n'aura suffi qu'à rallumer le volcan San Siro sur les dernières minutes. En prenant sa revanche après la cruelle élimination au tir au but à Wembley en demi-finale de l'Euro, il y a 3 mois, la Roura met fin à 37 matchs sans défaite des champions d'Europe, le record pour une sélection nationale. Et puis ici aux États-Unis, cette information de nos confrères de NBC News, 18 anciens joueurs de la NBA ont été arrêtés et accusés d'avoir fraudé le régime de prestations de santé et de bien-être de la NBA sur un montant de 4 millions de dollars, ont annoncé des responsables. Les personnes inculpées font face au chef d'accusation de complot sur des soins de santé et de fraude par fil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. En Guinée, le nouveau premier ministre de transition, Mohamed Beavogui, a déclaré que son gouvernement fera en sorte de créer les conditions d'une administration et d'une justice qui fonctionnent pour permettre la tenue des élections promises par la junte. Cet ancien onusien éloigné de la classe politique guinéenne devra proposer des ministres au colonel Doumbouya dans un délai de 30 jours et soumettre le plan d'action du gouvernement. Une analyse, Nathalie Barge, adjoint à Conakry, Nou Baldé, administrateur de guinematin.com.
Mohamed Beavogui est né à Poré-Daka, dans la préfecture de Mamou. Il est le neveu de Diallo Télé, le premier secrétaire général de l'OUA. Il a fait ses débuts en Guinée, mais surtout connu à l'étranger. Il a peu de connaissances ici. Sauf en 2007, lorsque le président Lansana Conté, à l'époque, a subi des manifestations, celui qui avait été proposé à la fois par le syndicat et la société civile pour conduire le premier gouvernement d'ouverture de Lansana Conté. Donc, il a fait le Nigeria, en Europe et aux États-Unis.
Il est qualifié de technocrate et comme vous l'avez dit, il a une expérience à l'étranger, notamment dans le développement. Est-ce que vous pensez que M. Beavogui n'aura pas de prise de position partisane ?
C'est ce que nous espérons et c'est ce qu'il a annoncé. Il a expliqué qu'il avait un rôle qui n'était pas forcément politique. Il avait à asseoir une administration qui devait fonctionner et les journalistes sont hâtés de lui poser la question sur les influences parce qu'on attribue souvent au Premier ministre des rôles un peu politiques. Le nouveau Premier ministre a essayé d'expliquer qu'il est sous la responsabilité du CNRD qui devait jouer ce rôle politique et qu'ils avaient, eux, les membres du gouvernement, organisé des élections crédibles pour quitter.
L'on sait que la classe politique en Guinée est somme toute assez divisée. Est-ce que vous pensez que M. Beavogui parviendra notamment à rassembler cette classe politique ?
C'est l'espoir que nous avons parce qu'il a une très grande expérience et s'il accepte le poste de Premier ministre, c'est parce qu'il sait d'avance qu'il a des voies de sortie. Nous savons que le plus souvent, les premiers ministres se permettent d'entrer dans des combines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément manipulés, mais il y a des deals politiques qu'on a connus dans ce pays. Il ne se permettra pas de ternir son image parce que quoi que l'on fera, les Guinéens sont suffisamment mûrs et prêts à résister. Nous l'avons constaté avec les manifestations contre Alpha Condé, contre le troisième mandat et je pense qu'il a envie, comme il l'a dit, d'organiser des élections transparentes, d'asseoir d'abord une administration moins politique, plutôt efficace et d'organiser des élections, laisser la possibilité aux Guinéens d'élire les candidats de leur choix.
Nou Baldé est fondateur et administrateur général du journal en ligne Guinée Matin. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a procédé mercredi soir à une réorganisation de l'armée, remplaçant notamment le chef d'état-major général des armées en poste depuis janvier 2019. Cette décision est intervenue deux jours après une attaque djihadiste contre un détachement militaire ayant fait 14 morts dans le nord du pays. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce réaménagement ? Marus Mounga a posé la question à Mamadou Sawadogo, gendarme à la retraite et analyste.
Cette réorganisation est la preuve que le chef d'État est en train de prendre la main d'assurer la question sécuritaire et aussi le chef d'État est en train de chercher des solutions en faisant ce changement au sein de la haute hiérarchie militaire. Donc c'est un message aussi qui montre qu'il y a une mission qui a été donnée à des hommes et qu'ils ont pour objectif effectivement de ramener la stabilité.
Aucune explication claire n'a été donnée, mais ce réaménagement intervient deux jours après une attaque d'envergure contre un détachement à Irgo, Est-ce que ces deux faits sont liés selon vous?
Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est peut-être l'attaque de trop, parce que depuis août et septembre, les forces de sécurité ont perdu beaucoup d'hommes, ce qui peut susciter un mécontentement au sein des troupes. Non, parce que aussi c'était prévu qu'un changement s'effectue au sein de la haute hiérarchie militaire.
Fin juin, le président Kaboré avait déjà limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité. Est-ce qu'on peut y voir une façon pour lui de consolider son pouvoir?
Oui, c'est une façon pour lui de consolider son pouvoir. C'est une façon pour lui aussi d'apporter une réponse à la menace qui est là. Parce que lorsque vous nommez des gens et qu'il n'y a pas de résultat, effectivement, ce que les hommes attendent, ce que la population attend, qu'on mette des gens beaucoup plus peut-être, on mette des gens pour que la situation change. Parce qu'on était dans une sorte de léthargie, on était dans une sorte de victimisation. Parce que donc, on a besoin de nouveaux. Ça, peut-être que ça va être la réponse ultime pour...
Quels sont, selon vous, les atouts de la nouvelle équipe mise en place pour lutter contre les groupes djihadistes affiliés à l'État islamique, Al-Qaïda, qui sévissent dans le pays?
Le premier atout, c'est d'abord le bénéfice du doute, parce que comme ils n'avaient pas les rênes, donc d'abord le bénéfice du doute, on leur accorde d'abord une confiance, et aussi au niveau des hommes, le fait même de faire un changement, ça renforce le moral des hommes et convainc les hommes que effectivement le chef d'État est préoccupé, donc ça peut galvaniser, c'est un atout, ça peut galvaniser les hommes sur le terrain. Le deuxième atout, c'est que ces hommes ont une pression, ce qui va faire qu'ils vont chercher des résultats coûte que coûte, donc c'est un atout pour le chef d'État qui peut engranger des victoires et des résultats sur le terrain. Et le troisième, c'est qu'il peut se servir des erreurs faites par les anciennes équipes pour pouvoir donner de bons résultats.
Mamadou Sawadogo, gendarme burkinabé, à la retraite.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Une première dans la lutte contre le paludisme, l'OMS a recommandé hier le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque. Ce vaccin tant attendu pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies. Pour en savoir davantage sur son efficacité, son financement et son déploiement, Nani Talani a joint à Brazzaville au Congo Richard Miigo, coordonnateur régional du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS Afrique.
Un vaccin, effectivement, qui a une efficacité, je dirais, modérée, efficacité autour de 40% dans la réduction de la maladie, mais également une réduction d'environ 30% pour les cas de paludisme sévère. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que vu, je dirais, la prévalence et l'ampleur du paludisme dans la région africaine, avoir une réduction de cette ampleur va avoir un impact significatif sur la réduction de la mortalité chez les enfants.
Quand est-ce que ce vaccin pourra-t-il être déployé?
Le but, c'est d'abord d'élargir la couverture dans les trois pays qui étaient d'abord en phase pilote, donc Ghana, Malawi et Kenya. Deuxièmement, de voir dans quelle mesure on va accélérer le processus d'homologation de ce vaccin dans tous les autres pays. Troisièmement, on est en train également de voir comment travailler pour mobiliser les ressources nécessaires pour que ce vaccin soit mis à la disposition de tous les pays qui en auront besoin. Pour ce faire, on travaille avec Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, qui doit examiner cet investissement au mois de décembre lors du conseil d'administration de Gavi. Nous espérons qu'avec cette recommandation positive qui a été faite par l'OMS, cela va ouvrir en fait la voie à un financement conséquent et ainsi permettre à ce que nous puissions éventuellement déployer ces vaccins partout où il sera nécessaire.
Est-ce que vous allez envoyer des équipes ou des travailler en coordination avec les ministères de la Santé de chaque pays? Comment allez-vous procéder pour déployer ce vaccin?
Le déployer à travers les programmes nationaux de vaccination, comme tous les autres vaccins de routine, et faire en sorte à ce que la couverture soit la plus élevée possible. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été effectivement démontré dans cette étude pilote dans les trois pays, que lorsque ce vaccin est administré dans la vaccination de routine classique, ce vaccin permettait d'atteindre le maximum d'enfants avant ne pouvait pas être atteint par les autres mesures de prévention contre le paludisme. Donc c'est important de signaler que ce vaccin, malgré l'efficacité, je dirais, limitée, est un vaccin qui va être administré en complément avec les autres mesures de prévention, telles que la moustiquaire imprimée ou l'administration saisonnière des antipaludaires. européen. Donc lorsqu'on combine toutes ces différentes mesures de prévention, y compris la vaccination, on a vu que l'impact était considérable dans la réduction non seulement de la morbidité liée au paludisme, mais surtout réduisait de manière considérable la mortalité chez les jeunes enfants.
Quelle sera la contribution des États bénéficiaires de ce vaccin?
Les États vont jouer un rôle clé parce que les programmes nationaux de vaccination sont d'abord sous la responsabilité des États membres. Donc les gouvernements, les États membres, les programmes nationaux de vaccination vont en fait jouer le rôle de leadership dans les déploiements de ces vaccins.
Richard Mihigo, coordonnateur régional du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS Afrique. Ici aux États-Unis, l'ex-footballeuse Mana Shim, qui accuse avec une autre joueuse son ancien entraîneur des Portland Thorns d'abus sexuels, a aussi accusé son ancien club de l'avoir forcé à se taire. Mana Shim et Sinead Farley ont mis en cause l'entraîneur Paul Riley, 58 ans, limogé du club en 2015. Sinead a accusé Riley de l'avoir soumise à des rapports sexuels forcés quelques années plus tôt, lorsqu'il était à la tête de Philadelphia Independence. Riley est devenu l'entraîneur du North Carolina Courage après avoir été licencié par les Thorns. Les Courage l'ont licencié la semaine dernière. Une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint ici dans le Maryland Agbenigan Amuzu, fondateur du centre de formation de football dénommé ESIDA, Elite Soccer Youth Development Academy.
Le sujet est vraiment complexe parce que, comme vous le savez, on est aux États-Unis. Et tout ce qui est éthique, sexual harassment, est très, 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 très grave. Parce que quand il y a un problème qui se pose comme ça, toujours dans les clubs, ou bien dans les écoles, ou dans les travails, ou dans les organisations, on ne sait jamais à qui s'appuyer sur. Surtout quand c'est des femmes, nous sommes là à attendre comment la justice va trancher pour savoir ce qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité.
Est-ce que ce sont des faits qui sont courants dans le football féminin ici aux États-Unis?
Oui. Comme dans tous les sports, il y a des choses qui sont courantes mais cachées. Il suffit qu'une goutte d'eau déborde la vase et on attend. Et ça se passe souvent dans les milieux, dans tous les milieux de basketball, baseball, football, et le football féminin. Il y a toujours ces scandales. Et il suffit que quelqu'un parle et c'est là qu'on est au courant de tout ce qui se passe.
La joueuse a aussi accusé son club, les Portland Thorns, de l'avoir forcé à se taire. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de cas pareils, vous qui êtes fondateur d'un centre de foot?
Qu'ils ont fait ça, ça doit être surtout l'intérêt de protéger l'image du club que les dirigeants ont pu prendre cette mesure. Si vraiment le concernant ou la concernante parle de cet effet qui est vraiment grave, qui peut détruire aussi la vie de l'entraîneur et la vie du club.
Mais justement, l'entraîneur mis en cause, Paul Riley, a été limogé des Portland Thorns en 2015 et quelques temps après, il a retrouvé un autre club, les Philadelphia Independence. À quelque part, c'est comme si c'est toléré.
On est aux États-Unis et tout est possible. Ça dépend qui est sur votre carnet d'adresse. Et je crois que des choses comme ça, si un entraîneur a une éthique comme ça, a un passé comme ça, normalement, il sera banni sur la liste des entraîneurs. Ou comme dans notre jargon ou dans notre milieu, où nous qui s'occupons des jeunes, quand il y a un problème comme ça, tu es banni à vie. Tu ne peux plus travailler avec les jeunes parce que ton background est brûlé, est en rouge. On ne peut jamais tolérer ou puis se donner des emplois à travailler avec les jeunes.
Alors, la commissaire de la Ligue nord-américaine de football féminin, Lisa Brett, mise en cause pour son inaction dans cette affaire, a fini par démissionner. Est-ce que vous pensez que d'autres têtes peut-être vont tomber?
Oui, du moment où c'est au news maintenant, la nouvelle, que tout le monde est sûr, je crois que d'autres maintenant seront libérés. D'autres personnes qui ont eu ce problème vont sortir maintenant pour parler. Donc ce n'est que le début de quelque chose qu'on va garder dans les news dans les semaines, dans les mois à venir.
Les États-Unis sont réputés être un pays de football féminin avec leurs multiples sacres, aux Jeux Olympiques, au Mondial. Est-ce que vous pensez que des scandales pareils vont ternir l'image du football féminin américain?
Ça revient maintenant à la fédération et comment ils vont protéger ou bien comment ils vont gérer cette situation. Et ce sera que ça ne peut pas endommager l'image de l'équipe nationale féminine des États-Unis.
Agbenigan Amuzu, fondateur du centre de formation de foot dénommé ESIDA, Elite Soccer Youth Development Academy. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.